Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous pub, média et com sur BFM Business. Toute l'actualité économique de nos communicants, de nos réseaux sociaux, de nos plateformes, de toute l'information, de la diffusion. Bref, c'est Hebdo.com, c'est votre émission média et pub et ça commence tout de suite. Hebdo.com saison 2 épisode 30, c'est parti.
BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
Au menu aujourd'hui, France Musique a le vent en poupe et des audiences en pleine forme. Quelle stratégie de la station de radio France à l'heure du digital et de la transformation des usages? Le patron de France Musique, Marc Voinchet, est notre invité aujourd'hui. Simon Tenenbaum passera en revue ensuite pour nous toutes les news d'Hebdo.com comme d'habitude. Et pour terminer notre focus, on va parler du rapport sur les écrans et les enfants. Quel impact auront ces recommandations sur les plateformes et sur la publicité, et notamment sur la publicité ciblée? C'est notre focus aujourd'hui, mais d'abord j'accueille mon invité. Bonjour Marc Voinchet.
Et bonjour à vous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le patron de France Musique, groupe Radio France évidemment. Vous êtes à la tête de cette radio depuis 2015. Pas mal de nouveautés, d'innovations pour rester dans le coup, pour rester moderne, on y reviendra. Mais d'abord, si on prend un petit peu de recul, vous avez vécu, vous, ces dernières années, en premier plan, cette révolution des usages, les changements d'habitudes de consommation de vos auditeurs, des habitudes d'écoute. Comment est-ce que vous appréhendez cela chez France Musique et quelle a été votre stratégie d'adaptation, notamment pour passer de la consommation du linéaire au format numérique?
Alors, je ne vous cache pas qu'effectivement, ce sont des questions qui sont extrêmement préoccupantes pour nous. Et qui même parfois peuvent apporter un peu de mélancolie, parce que quand on est un vieux briscard comme moi, nourri à la radio, et que la radio paraissait, en tout cas l'écoute linéaire, paraissait éternelle, et qu'on voit bien que les usages changent, il a fallu quand même évidemment très vite se mettre au diapason. Ça n'a pas été sans difficulté pour des tas de questions de droits musicaux par rapport au label et par rapport à des questions de hiérarchie, de chronologie, de diffusion. Je vous passe les détails, ça serait trop compliqué. On a des services juridiques à Radio France extraordinaires qui nous ont beaucoup aidés dans ce sens-là. Et c'est vrai que depuis plus récemment que les copains de France Inter ou de France Culture, on a pu se mettre aussi au natif pour assurer effectivement cette puissance numérique, on va dire, de la chaîne qui bénéficie d'une très belle puissance linéaire parce que malgré tout, le linéaire, le hertzien, la radio, à France Musique, elle est encore très pratiquée. Mais l'idée, c'est que avec le numérique, on peut arriver à pérenniser des contenus qu'on ne pérennisait pas auparavant. Et puis surtout, on peut en inventer plein qu'on n'inventait pas forcément en étant, au fond, comme ça, fixé sur le linéaire. Et c'est ce que j'ai appelé, il y a quelque temps, un France Musique augmenté. Voilà, qui permet de dire qu'on est fort sur le linéaire et grâce à cette force-là, on se développe aussi sur le numérique pour aussi anticiper l'avenir et puis coller à ces fameux usages. Et faire des choses qu'on ne faisait pas forcément avant, comme l'offre jeunesse. Enfin,
On y reviendra. Donc ce que je comprends, c'est qu'on ne peut pas du tout se passer du linéaire.
C'est-à-dire que pour l'instant, les audiences linéaires sont fortes sur la chaîne, les habitudes d'écoute chez nous de la radio restent fortes, même si effectivement le paysage, lui, radio en général, prend un petit coup dans l'aile, hein, en perdant chaque fois un million chaque année d'auditeurs quittent le média. Hein.
Donc, sur ce virage numérique que vous avez pris avec France Musique, augmenter des nouveautés des podcasts natifs, vous le disiez, une deuxième chaîne YouTube également, une dixième web radio dédiée au piano, là, au début de l'année.
Je vous la conseille.
Vos émissions phares. Avec tout cela, vous fidélisez plus d'un million d'auditeurs pour la quatrième vague consécutive et gagnez 107 000 auditeurs sur un an, selon Médiamétrie, selon les chiffres de Médiamétrie. Mm-hmm. Que signifient vraiment ces chiffres, notamment sur l'impact de toutes ces nouveautés, de toutes ces nouvelles chaînes numériques sur l'engagement de vos auditeurs par rapport à la consommation traditionnelle?
Ça veut dire que quand on dépasse le million d'auditeurs et qu'on arrive à le garder, pour, on va pas se raconter l'histoire, pour un média dit de niche, hein, la musique classique, qui on s'est fait encore peur à plein de gens, à qui on a envie de dire, venez, ça mord pas, c'est plutôt sympa. Cette assise-là du linéaire, elle nous permet justement de pouvoir supporter, au sens anglais du terme, les créations numériques que l'on fait. C'est-à-dire qu'elle, fort de ce million-là, on peut arriver à conquérir et à dire, parce que comme la radio reste encore écoutée, quand je dis à la radio aux gens, allez sur l'appli Radio France, voir les podcasts natifs que l'on fait, évidemment que ça a produit son petit effet.
Est-ce que vous pensez qu'il y a l'effet inverse ? Que du numérique au linéaire ?
Alors, du numérique au linéaire, il est moins fort. Ouais, non, on va pas se raconter d'histoire. Il est moins évident. Les gens qui vont écouter au numérique natif ne sont pas forcément intéressés par l'antenne.
Parce que le million est là, quand même.
Voilà, le million est là, et puis les usages changent. Voilà, c'est-à-dire que les usages changent. Les portables, l'ordinateur, le fait que, aujourd'hui en plus, on fait de grosses conquêtes aussi en DAB. Enfin, vraiment, la question de l'écoute de la radio en numérique, on voit très bien que c'est par là que passe notre avenir, mais j'allais dire à tous.
Sur le DAB, justement, depuis le 1er février, Radio France a déployé ses canaux de distribution avec la mise en place de services de 55 nouveaux émetteurs. Qu'est-ce que ça change pour vous directement, France Musique, en termes de stratégie et notamment de programmation de contenu ?
Alors ça, en termes de stratégie, pour l'instant, on attend de voir comment les choses continuent d'évoluer. On va couvrir quasiment trois quarts, vous me corrigez si je dis une bêtise, on va quasiment au DAB à peu près trois quarts du territoire. Ben, pour l'instant, ça nous permet que nos programmes habituels hertziens soient aussi facilement trouvables, hein, on va dire, par le DAB. Pour les nouveaux contenus DAB, on va se donner le temps de réfléchir, d'autant que pour l'instant, on a quand même une très forte offensive numérique avec les propositions que l'on fait. Donc,
rien prévu pour l'instant.
En avant, calmez droit. Ben, y a une stratégie de groupe qu'on verra.
Si on revient rapidement sur les formats numériques, est-ce qu'il y en a un de format ou de support qui cartonne le plus et qui a surtout le plus de valeur aujourd'hui pour vous, pour France Musique ?
Alors, il y en a plusieurs. On va dire qu'il y en a un qui marche vraiment très bien, qui rencontre son public, qui est le Journal Intime 2.
Et en podcast.
Voilà, ça c'est podcast natif où on raconte à la première personne. Mozart se raconte à la première personne quand il est petit, tient son journal. Mais il n'y a pas que Mozart, il y en a d'autres. On a beaucoup varié, notamment les entrées. Le tout dernier, c'est Édith Piaf.
Édith Piaf, lu par José voilà. Balasco.
Alors chaque fois, ces grands noms-là sont incarnés par d'autres grands noms. Callas, c'est Carole Bouquet. Là, Édith Piaf, c'est José Balasco. Podalides fait Bach. Voilà. Chaque fois, évidemment, on trouve une belle incarnation. Et pourquoi, d'une manière assez ludique et assez naturelle, et puis ludique, voilà, rentrer dans l'intimité de figures qui parfois peuvent encore un peu impressionner. Et on se met à la portée d'un auditeur qui peut avoir 7 ans, mais qui peut avoir aussi des jeunes parents ou des grands-parents érudits, mais qui ont envie de se refaire un peu une santé sur leur connaissance en biographique de Mozart ou autre.
Donc ça, c'est...
Et ça, alors là, on dépasse très largement le million de téléchargements et ça marche plutôt... Oui, ça marche vraiment très bien.
Et justement, est-ce que vous arrivez à monétiser ces formats sur le digital ? Est-ce que Radio France, par ailleurs, vous donne suffisamment de moyens pour les produire ? C'est quoi la structure économique aujourd'hui de France Musique et la diversification de vos sources de revenus, notamment ?
Alors, sur ce coup-là, sur la production, c'est France Musique qui les produit. Et il a fallu, comme vous savez, que tout augmente et qu'il en est quand même toujours en période d'économie, il a fallu imaginer de nouveaux moyens de production dans la chaîne.
Par exemple,
redimensionner les équipes, par exemple, sur le linéaire, et voir si avec ces forces-là, avec des plus petites équipes, on renforce la production numérique. Voilà, c'est ce qu'on appelle des réformes de moyens de production qui vont avec les usages, avec l'évolution du temps. Et voilà, quant à la monétisation, pour l'instant, je suis trop court pour vous répondre très précisément.
Un mot sur la grille des programmes. On a les émissions phares qui cartonnent, comme En Piste, qui fête ses 10 ans cette année, Les Grands Entretiens. Mais on parlait de vos podcasts natifs. Quelle est l'importance, vous parlez de Mozart, d'Edith Piaf, de ces figures culturelles majeures dans votre stratégie? Et surtout, comment est-ce que vous sélectionnez, en fait, ces personnalités?
En fait, on les sélectionne parce que je me suis rendu compte d'une chose, figurez-vous, il n'y a pas très longtemps, on pourrait me le reprocher. C'était pendant le confinement, où de temps en temps, je regardais le site, voilà, sur l'appli Radio France, et je regardais les contenus que proposait France Musique. Je m'amusais à taper sur une barre de recherche bien connue, par exemple, Mozart. Et quand je tombais sur Mozart et que je déroulais mes résultats de recherche, je voyais qu'il y avait beaucoup de contenus de France Musique, par exemple. Alors, il y avait, je sais pas, Mozart et sa sœur, Mozart et sa mère, Mozart et Prague, Mozart et les francs-maçons, Mozart et Salieri, Mozart et l'opéra, Mozart et les pâtes, tout ce que vous voulez. Il n'y avait pas, par exemple, de vie de Mozart. Comme les copains de France Culture ont leur série Une vie, une œuvre ancestrale. Vous avez, voilà, Molière, Duras, ce que vous voulez. Et là, je me suis dit, il y a un truc vraiment à trouver pour qu'on soit, sur ce coup-là, aussi, à la fois, effectivement, dans le plaisir de la connaissance, mais qu'on ait une valeur encyclopédique. Et donc de lancer à la fois sur des grilles d'été et à la fois en natif de grandes monographies, comme ça, qu'on s'est mis à appeler les sagas, pour que quand vous taperez Mozart demain sur votre barre de recherche préférée, de moteur de recherche préféré, ben France Musique, alors on sait très bien qu'arrivera en premier YouTube et Wikipédia, mais que France Musique arrive en allez, 2e, 3e, 4e position maximum, et surtout qu'on voit que France Musique là, est une chaîne ressource à la fois sur l'émotion, l'évasion, mais aussi sur l'érudition.
Mais quand vous me racontez, vous me donnez cet exemple-là, est-ce que vous ressentiez également un besoin de la part de vos auditeurs de répondre à cette demande de cette façon-là ?
Alors, c'est arrivé que, sur ce coup-là, comme vous le savez, nous, c'est le service public, c'est la question de l'offre. On n'est pas, alors, mais il suffit d'aller chez un cousin à Noël, il suffit de traîner dans les couloirs pour tomber sur un collègue qui vous fait un reproche. Bon. Quand ce reproche, entre guillemets, ou cette demande, elle se répète un peu, vous dites, là, il y a un truc. Et par exemple, quand on m'a dit un jour, il manque à France Musique un endroit où on sache quoi écouter, quelle est la discothèque idéale. Alors là, j'ai rien dit, parce qu'en moi-même, je savais qu'on était en train de le faire, en secret, entre guillemets, et que ça allait donner un résultat. C'était quoi ? Alors là, si je vais vous donner un exemple de synergie parfaite entre ce qu'est l'antenne chez nous et le numérique. Une émission quotidienne sur le linéaire, relax, propose tous les jours à 16h, depuis maintenant 3 ou 4 ans, ce qu'on appelle le disque de légende. Et donc ce producteur, Lionel Esparza, tous les jours, sur un quart d'heure, vous met le meilleur de Martha Argerich, le meilleur de Barenboim, le meilleur de qui vous voulez, le moment.
Alors, elle est où la synergie avec le numérique ?
Parce qu'une fois qu'on découpe tous ces quarts d'heure-là et qu'on fait une case sur l'appli ou sur le site Disque de légende, tout de suite, on a de manière très visible quelque chose qui répond à la question qu'on me posait. Mais il me fallait un peu de temps pour ça. Voilà. Et là, on a une collection quotidienne de 3 ou 4 ans qui n'est pas finie. Voilà, Disque de légende, vous saurez exactement ce qu'il faut écouter. Après, vous serez d'accord ou pas d'accord, mais la proposition est chaque fois, évidemment, très high level, quoi.
Alors, si on revient justement sur la production de ce genre d'extrait que vous pouvez faire pour les applications, pour le digital, pour vos chaînes YouTube, un mot rapide pour finir sur les évolutions technologiques. Est-ce que vous allez intégrer, par exemple, l'intelligence artificielle ? Si oui, comment et quelles sont les ambitions de France Musique ?
Alors, l'intelligence artificielle, ce sont des choses sur lesquelles on travaille en ce moment avec tout le département de Laurent Friche là-dessus, mais on est en plein travail. On a des pistes, évidemment, de rationalisation de contenus musicaux, de choses qu'on fait aujourd'hui à la main, qu'on pourrait sans doute faire plus rapidement avec l'intelligence artificielle, qui permettrait d'améliorer certains métiers qui sont un peu répétitifs là-dessus.
Le service public vous encourage à aller dans cette direction ?
Ben, je ne sais pas si le service public nous encourage. Nous, nous encourageons nous-mêmes à travailler sur ces questions-là, auxquelles on ne peut évidemment pas échapper. Bon, il faut pas revoir 2001 de l'espace, sinon l'intelligence artificielle, on s'en sert pas. Non, bien sûr, mais ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de compétences diverses et variées. Les gens du numérique chez nous sont extrêmement compétents là-dessus. Moi, j'ai beaucoup à apprendre d'eux. Et voilà, il y a des ateliers, pas plus tard que hier après-midi, où on regarde les possibilités, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, ce qu'on veut éviter. Mais pour l'instant, c'est un chantier.
Vous allez l'intégrer.
Gros chantier, bien sûr, on est à fond.
Gros chantier. Merci beaucoup Marc-Franchet, merci d'être
merci
venu.
Vous
êtes le directeur de France Musique. Tout de suite, les news de Simon Tenenbaum.
La fin du conflit qui secoue TikTok et l'industrie musicale. Universal Music et l'application de vidéo ont trouvé cette semaine un accord. qui va permettre le retour des titres de la Major sur TikTok après plusieurs mois d'absence. Plusieurs millions de titres avaient été retirés à la demande d'Universal qui cherchait à obtenir une meilleure rémunération de la part de l'application. C'est le début d'une nouvelle ère de collaboration stratégique entre les deux entreprises, peut-on lire dans le communiqué. Outre une meilleure rémunération, l'accord prévoit de nouvelles protections face aux musiques générées par des IA et la mise en place de nouveaux outils pour promouvoir les artistes, comme la vente de tickets de concert intégrés dans TikTok. Les journaux, toujours divisés dans l'attitude à adopter face à l'intelligence artificielle et ChatGPT. Cette semaine, d'un côté, 8 grands journaux américains, dont le Chicago Tribune, ont lancé des poursuites contre OpenAI et Microsoft, une nouvelle plainte après celle du New York Times notamment pour aller chercher une rémunération pour la reprise de leur contenu par l'IA générative. En face, dans le camp de ceux qui ont signé avec OpenAI, après Axel Springer ou le journal Le Monde, c'est le Financial Times, le grand quotidien économique britannique, qui a annoncé lui un accord de licence avec la start-up américaine. La forte hausse des revenus publicitaires d'Amazon au premier trimestre, croissance de 24%, qui coïncide avec le lancement en janvier de l'offre avec publicité de son service de streaming Prime Video. Amazon a engrangé près de 12 milliards de dollars de recettes pub sur les 3 premiers mois de l'année. La majorité de ses revenus reste générée par l'activité de retail média du géant du e-commerce. En attendant, le e-commerce virtuel ou e-commerce dans le métavers a franchi une étape cette semaine avec le lancement par Walmart, le géant américain de la grande distribution, de sa boutique de vente sur Roblox. C'est la première fois que les consommateurs peuvent acheter dans cet univers virtuel de vrais objets qui leur seront ensuite livrés, sac à main, écouteurs, vaisselle. Des doubles numériques des produits sont présentés dans ce magasin virtuel pour permettre de les tester sur les avatars. Ce test très concret des possibilités du business du métavers va durer tout le mois d'août.
Les conclusions d'une commission d'experts mandatée par le chef de l'État sur les usages des écrans par les enfants ont été publiées par la presse régionale cette semaine. Et ce rapport formule des recommandations qui ne sont pas nouvelles, mais qui ont quand même pas mal fait parler d'elles dans les médias. Cette semaine, on a donc voulu s'intéresser à l'impact que ce rapport pourrait avoir sur les plateformes, les réseaux sociaux, la publicité et la publicité aussi, notamment, pourquoi pas. Et pour en parler aujourd'hui, Valentin Richardot, salut.
Salut Rebecca.
Merci d'être là. Je le rappelle, tu es fondateur de J'ai un pote dans la com. Et à côté de toi, Charles Sterling. Salut.
Bonjour.
Charles. Merci d'être là. Tu es créateur de contenu et consultant data et finance. Valentin, selon toi, il y a un sujet de maturité numérique. Est-ce qu'il va y avoir un impact de ces recommandations sur la communication des marques, premièrement?
C'est une bonne question. La maturité numérique, c'est un thème qui est largement évoqué, qui est repris. Et elle n'est pas encore évidente. Quand tu as 13 ans, 6 ans, même 15 ans, cette maturité numérique, elle n'est pas encore palpable. C'est une vérité. Même nous, en tant qu'adultes, on a des fois du mal à décrocher. Donc, demander à ces jeunes de eux-mêmes, par leur propre biais, leur propre motivation de décrocher, c'est impossible. Est-ce que ça va impacter les marques et la com? Oui, enfin, c'est évident. C'est évident qu'ils vont tous avoir un rôle à jouer, qu'ils ne pourront plus communiquer comme avant. C'est des choses qu'on sait déjà. C'est un secret de Polichinelle, hein, les problèmes que les écrans créent auprès des jeunes. Maintenant, le fait d'avoir cristallisé ça avec ce rapport, avoir mis le gouvernement sur ces sujets, ça va évidemment embarquer les marques, les agences et les créateurs dans la prise de conscience de tout ça.
Charles, toi, en tant que créateur, du coup?
Je pense que c'est déjà un rapport simplement à titre consultatif. Donc déjà, voyons si réellement il y aura ensuite des actions, des mesures concrètes du gouvernement derrière cela, parce qu'on parle beaucoup, parce que comme tu l'as très bien dit, en fait, ça fait des années qu'on sait qu'il y a un impact négatif des écrans sur les jeunes, surtout chez les plus jeunes et les mineurs au quotidien, mais il n'y a pas eu vraiment d'implication derrière.
D'action concrète.
Exactement. L'an dernier, on avait annoncé la majorité numérique à 15 ans, mais aujourd'hui, n'importe qui, même les gens de 6 ans, peuvent être sur les réseaux sociaux. Et c'est là aussi tout l'enjeu, c'est que les plateformes ont leur rôle à jouer, ainsi que les parents. Et c'est aussi l'importance du rapport, c'est aussi donner les clés à ses parents de pouvoir agir et mieux contrôler ce que font les enfants sur des téléphones.
Et l'impact sur les créateurs, rapidement?
Je pense que ça dépend vraiment du type de la création de contenu, mais forcément les personnes qui jouent énormément sur les communautés de gens mineurs vont être impactées. Mais je trouve qu'au contraire, moi, c'est plutôt positif. Ça peut-être potentiellement les contenus seront séparés plus pour les parties mineures et pour les parties majeures. Donc ça pourrait être aussi très intéressant. Durant la loi influence, il y avait une volonté des députés, en fait, de scinder et de pouvoir activer une petite case pour différencier des contenus interdits aux mineurs et pour les majeurs, justement, pour ces thématiques qui pourraient être un peu dangereuses, sachant qu'il y a de plus en plus de contenus assez violents sur les réseaux.
Peut-être que là, cette fois-ci, suite à la demande du chef de l'État, les choses pourraient bouger de manière officiel. Est-ce que tu penses que c'est...
Je pense que c'est un signal qui est envoyé. C'est effectivement des choses qu'on avait en tête. Maintenant, le fait de le matérialiser par ce rapport et de mettre le gouvernement à la manœuvre, ça va aussi donner peut-être des clés pour des campagnes de on parle de santé publique, hein, là, donc des campagnes gouvernementales pour sensibiliser les jeunes et les cibler un peu plus.
Parmi les recommandations fortes du rapport, alors portable à partir de 11 ans jusqu'à 13 ans sans internet, de 13 à 15 avec internet mais sans réseaux sociaux, et puis à partir de 15 ans des réseaux sociaux mais uniquement des réseaux éthiques. Ma première question d'abord, c'est qu'est-ce qu'un réseau social éthique ?
Pour moi, c'est un peu la question à 1 million d'euros, parce que je pense que si on réalise comment fonctionne un réseau social, ben aucun n'est vraiment éthique, puisque leur principe même, le principe de fonctionnement, c'est l'économie de l'attention. Le but, c'est vraiment d'isoler les personnes et de faire rester les téléspectateurs sur leur réseau social, et les plateformes sont prêtes à tout pour que les gens restent dessus. C'est très addictif. La manière dont c'est créé, c'est évidemment très addictif. Donc, se questionne quelles seraient les plateformes qui seraient autorisées selon le gouvernement. Donc, ça devient aussi très problématique là-dedans. Et je pense aussi, à un moment donné, ça serait aussi un peu liberticide de se dire, il y a des plateformes qu'on autorise, qu'on n'autorise pas, selon quels critères. Donc, il y a aussi un gros enjeu aussi éthique de la part du gouvernement de se dire, qu'est-ce qu'on autorise ou pas? Et à un moment donné, c'est aussi un peu aussi aux parents de se dire, de prendre les clés en main de l'éducation, de se dire comment je dois éduquer mes enfants vis-à-vis de l'enjeu numérique qui est extrêmement important aujourd'hui.
Donc Val, tu me disais qu'il y avait aussi un sujet de communication à travers les parents. Là, les agences, elles ont peut-être un rôle à jouer également?
Je pense qu'il y a effectivement un rôle à jouer déjà sur la relation parents-enfants-éducation, etc. Mais il y a aussi la place du divertissement dans la vie de ces jeunes, et quel type de divertissement on veut promouvoir. Faire la promotion du sport, évidemment, ça paraît logique, mais c'est une évidence, du sport, des types de divertissement liés à l'art, liés à la production de choses. Et en fait, les jeunes ne s'ennuient plus. Enfin, lorsqu'ils s'ennuient, ils sont sur TikTok, et le moment où on s'ennuie, c'est souvent le moment où il se passe énormément de connexions dans notre cerveau, et il n'y a plus ce moment-là qui est si précieux, notamment pour nos métiers de communicant et de créatif. Si on enlève ça, il se passe plus grand chose. Donc peut-être refaire la promotion d'un divertissement qui est autre que celui du téléphone et de la consommation de contenu.
C'est un peu ce que tu disais à travers l'économie de l'attention.
Exactement, et peut-être moi je suis un petit peu plus pessimiste, parce qu'il y a un sondage de l'Ipsos qui dit que les jeunes entre 7 et 19 ans passent en moyenne 3 heures par jour sur les écrans. Je pense que c'est un peu illusoire de penser qu'on va réussir vraiment à réduire tout ça, mais je pense que aussi les plateformes ont un rôle à jouer, déjà en poussant que certains types de contenus, donc que des contenus par exemple pour les mineurs, mais aussi pourquoi pas du contenu éducatif. Je sais par exemple qu'actuellement, il y a l'UMIC, donc l'Union pour les métiers de l'influence et la création de contenu, qui aimerait lancer une sorte de loi tout bon, c'est-à-dire que 30% du contenu sur les réseaux sociaux serait par exemple du contenu culturel ou à but éducatif. Et là, on pourrait se dire que ça pourrait être intéressant, sachant qu'on sait que les jeunes vont être quand même sur les réseaux sociaux, de pousser en fait du contenu, mais qui serait utile et pertinent, comme c'est déjà le cas par exemple sur Douyin, qui est l'équivalent de TikTok en Chine.
Et alors, si on revient sur le rapport et les recommandations, on en parlait un petit peu au début, mais plus précisément, quel impact ça pourrait avoir cette fois pour les communautés, pour cet aspect-là de la création de contenu et de l'audience, parce que moins d'audience égale moins de publicité, forcément.
Forcément, on sait que déjà, d'un point de vue communauté, les personnes qui interagissent le plus, en général, sont plutôt les mineurs. Donc, je pense que ça va beaucoup impacter les gens dont les communautés sont très fondées sur ce type de personnes. Mais en même temps, à la fois, je pense que c'est aussi les personnes qui sont potentiellement les plus manipulables. Il y a eu pas mal de cas de scandales où les gens faisaient appel à des mineurs, soit pour harceler ou ce genre de choses. Donc, ça peut être aussi très bénéfique de un peu retirer ce genre de personnes qui sont aussi plus facilement manipulables. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est quand même extrêmement utile, même si on va perdre un peu de communauté. Évidemment, les marques auront peut-être moins d'audience, un peu moins de publicité. Potentiellement, les réseaux sociaux perdent de l'argent. Mais on sait très bien qu'elles arriveront à rebondir, à trouver d'autres mécanismes pour atteindre les jeunes, évidemment, par d'autres mécanismes. On sait par exemple que les marques qui ne peuvent plus faire de la pub à la télé, sont plus vraiment en odeur de sainteté, donc sur les canaux traditionnels, vont faire de la pub un peu cachée, déguisée dans des films, dans des séries, pour promouvoir un peu leurs produits de manière déguisée, donc forcément en atteignant ces cibles qui ne sont pas facilement atteignables.
Atteignables, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'audience de la télé et de la des médias traditionnels et de la télé, évidemment, vieillit de plus en plus et le digital se rajeunit. Le groupe d'experts appelle à lutter contre les services prédateurs des acteurs économiques comme le fil de déroulement infini, donc le scroll ou le lancement automatique des vidéos, et à permettre aux utilisateurs de mieux paramétrer les fonctionnalités des applications et le contrôle parental. Cette fois, est-ce que ça peut avoir une conséquence économique sur le marché du retail média?
Oui, je pense, mais après, ça va. Si on réfléchit comme ça, évidemment, il faut que ça aille dans le bon sens. C'est-à-dire que lorsqu'on parle beaucoup de communication éthique et responsable. Ça peut aussi peut-être être ça, la communication éthique. C'est une communication qui est peut-être plus dans du slow, qui fait moins de volume de contenu. Donc oui, il faut peut-être accepter aussi le côté un peu moins d'audience. Et du coup, bah, des mineurs un peu plus en safety, avec des safe place, une marque qui est en brand safety aussi. C'est peut-être ça, juste une solution, c'est avoir une communication responsable qui prend en compte évidemment les enjeux des annonceurs, mais aussi des users qui plus est des mineurs. Donc peut-être moins d'audience, mais peut-être plus aussi de responsabilité, d'engagement et de communication qui a du sens.
Charles, tu penses que ça va avoir une conséquence, toi, quand tu, dans ton métier au quotidien ?
Ben forcément, si on peut plus atteindre ces personnes-là, en fait, tout simplement, les gens vont, je pense, adapter leur contenu. Donc peut-être que ça va être même bénéfique pour même les créateurs qui seront sur les plateformes de proposer peut-être des choses qui sont peut-être plus intéressantes.
Ça va pas les restreindre ?
Ça peut être deux points de vue différents. Il y en a qui vont se dire, je ne peux plus faire, je vais perdre des abonnés. Et il y en a qui vont se dire, mais comme ils deviennent aussi plus âgés, ils vont grandir, ils vont se dire, mais pourquoi pas atteindre de nouvelles personnes, plus de gens, justement, faire du contenu potentiellement plus qualitatif. Après, pour les marques, je pense que c'est pas forcément tant problématique parce que le contenu demeure, en fait, extrêmement massif sur les réseaux sociaux. Il y a aucun problème de manque de contenu et donc ni non plus d'utilisateurs. Donc, je pense que les gens vont quand même réussir à s'adapter. Et je pense que c'est pas plus mal si on arrive quand même à scinder potentiellement, ben, les mineurs et les majeurs, sachant que les mineurs sont de plus en plus exposés donc à des contenus violents ou pornographiques. Et quand on a 10-15 ans, ce n'est pas forcément le lieu, les réseaux sociaux, de voir cela.
Merci, merci Charles Sterling, merci Valentin Richardot, merci d'avoir été avec nous dans Hebdo.com aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment partout en replay, télé, podcast et sur l'application de BFM Business. Et comme d'habitude, on termine avec notre campagne chouchou, notre campagne préférée qu'on a choisie avec CB News cette semaine. Et franchement, le choix était assez évident aujourd'hui pour promouvoir l'énergie renouvelable. Qui de mieux que Jamel Debbouze ? Un moyen d'atteindre toutes les générations et frapper un grand coup pour rendre compte que le gaz vert est une énergie incroyable finalement, puisqu'elle est renouvelable, elle est locale, elle crée de l'emploi, elle alimente les territoires, elle engage les agriculteurs et elle nous permet d'être de plus en plus indépendants. Voici donc la dernière campagne de GRDF, Gaz Réseau Distribution France, un film signé Rosa Paris avec Jamel Debbouze. Donc très bon week-end sur BFM Business.
Bon Jamel.
Long texte, très simple, une phrase. Grâce au gaz vert, la France pourrait sortir du gaz fossile plus vite.
On peut faire ça.
C'est génial.
Je le dis où ? En sautant de là-haut.
Et action !
J'ai sauté, c'est bon !
On te voit encore sur la planche, Jamel.
Local et renouvelable. Le gaz vert, on est prêt à tout pour le faire connaître.
Hebdo.com sur BFM Business.